Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
正忙。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h50 avec Doria Zénine à la réalisation et Clément Berman à la technique. Suite et fin de notre série sur la diversité culturelle au défi d'Internet, nous nous intéressons aujourd'hui à la culture en mouvement, celle des migrants, les i-diaspora, de nouvelles communautés transnationales.
Comme on peut le voir sur ces documents amateurs, des manifestations ont ainsi été organisées mercredi par les membres de la diaspora ukrainienne dans plusieurs villes aux quatre coins du monde. Une mobilisation à l'étranger pour soutenir le mouvement contestataire ukrainien qui s'organise dans la rue donc, mais aussi sur le web où les internautes solidaires du combat mené actuellement sur la place de l'indépendance sont invités à faire usage du hashtag SupportUkraine pour exprimer leur voix.
Bienvenue sur la chaîne de la diaspora congolaise ici au Canada et surtout à Toronto.
Come and celebrate Jamaican Diaspora Day. Hear about passports, visas, land, shipping barrels and travel to Jamaica.
La diaspora ne joue plus le même rôle. Avant, il jouait le rôle du banquier qui remplaçait l'État dans les villages pour construire des écoles. Aujourd'hui, il joue aussi le rôle des sentinelles, des veilleurs.
Sentinelles, veilleurs. Plus libres mais toujours attentifs à ce qui se passe politiquement et culturellement dans leur pays d'origine. Avec le numérique, le migrant change de dimension. Il n'est plus déraciné mais doublement présent. Internet est plus qu'un outil de communication pour les diasporas. Internet recompose de nouveaux rapports identitaires et culturels. La planète compte 215 millions de migrants d'après l'ONU. Comment Internet favorise la mobilité, les échanges interculturels et donc la diversité culturelle dans le monde? Dana Diminescu, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sociologue, enseignante à Télécom Paris Tech et conceptrice du projet d'Atlas e-Diaspora. Alors peut-être commençons par un peu de définition tout simplement pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Une e-Diaspora, qu'est-ce que c'est exactement?
Après quelques années d'études, on est arrivé ensemble avec les 80 chercheurs qui ont travaillé dans le cadre de ce projet à une définition qui est toujours, disons, transitoire. Parce que aussi le projet nous a permis d'explorer ce monde-là, des diasporas sur le web, et évolue en permanence. Et donc, ce que je vous définis là, c'est une définition provisoire. Donc, qu'est-ce que c'est une diaspora? I-diaspora, ça s'écrit E-diaspora, c'est pas I-diaspora.
Bien sûr. Oui.
C'est une communauté migrante qui s'organise à travers différents médias numériques, en particulier sur le web. Ces pratiques sont celles d'une communauté au sein de quelles les interactions sont augmentées, si je peux dire comme ça, par les échanges numériques. C'est un collectif distribué, pas seulement dispersé, c'est-à-dire que c'est une entité hétérogène dont l'existence repose sur l'élaboration d'un sens commun, sens qui n'est pas défini une fois pour toutes, mais qui est constamment renégocié au cours de l'évolution de ce collectif. Donc, c'est un collectif instable qui se redessine avec chaque nouveau arrivé. C'est un collectif qui s'est autodéfini, s'auto-organise et qui augmente ou diminue avec chaque membre qui adhère ou se désiste, en fait, à ce collectif. Ça veut dire, qu'est-ce que nous avons, en fond, collecté pour parler d'une diaspora? Des sites web, certaines sont des sites des associations, certaines sont des sites des blogueurs, certaines sont des sites des institutions dédiées aux expatriés. Alors, si un site pointe sur l'autre, ça veut dire j'adhère, c'est ça dans notre langage. En fait, c'est le hyperlien qui porte en fait un lien entre les différents acteurs.
Le lien réel, Le oui. lien réel est incarné en quelque sorte par l'hyperlien digital.
Oui.
Alors vous dites que c'est un collectif instable, ce qui fait que finalement votre définition transitoire, provisoire, bah, le fait qu'elle soit provisoire, ça fait presque partie de la définition parce que effectivement la diaspora c'est sans cesse en mouvement.
Oui, mais en recomposition et en auto-organisation, je suis bien d'accord avec ça. Il faut dire par contre que ce qu'on observe dans le web n'est pas totalement la photographie de ce qu'on observe dans les géographies réelles. D'accord ? C'est une des formes de présence d'une diaspora ou de plusieurs diasporas sur la toile.
Alors, quelle présence exactement vous avez observée? En fait, vous n'avez pas tellement fait une cartographie des contenus. Enfin, si, vous avez fait une cartographie des contenus, mais pas tellement des usages.
Ah oui, tout à fait. Si on étudie l'usage par le migrant des différentes nouvelles technologies, on adopte d'autres méthodes, ce n'est pas la méthode diaspora. Là, en fait, nous avons collecté des sites migrants, nous les avons ensuite visualisés à travers à l'aide d'un autre outil que nous avons créé nous-mêmes et nous les avons représentés sous forme de graphes. Ces graphes-là ne sont pas la photographie de la réalité. Ce sont des outils toujours de travail avec lesquels nous descendons dans le terrain et nous confrontons au fond ce que nous avons et la question que les graphes nous apportent à ce que nous trouvons ensuite dans le terrain. Donc, c'est difficile ici, la méthodologie est très complexe, c'est difficile de la résumer. Le résultat, c'est que nous voyons la connectivité et les interactions entre différents acteurs de la diaspora. Je sais pas, nous avons sorti Transsection.
Alors c'est d'autant plus compliqué comme méthodologie que c'est un projet extrêmement ambitieux. Il y a 80 chercheurs du monde entier, je crois, ont collaboré.
Et une quarantaine qui attendent d'intégrer l'Atlas.
Ah oui, encore en plus. Oui. Il y a quelques 8000 sites pour l'instant qui ont été observés.
Oui, qui sont archivés toutes les semaines.
Et ceci sur 28 diasporas pour l'instant.
30.
30 déjà, oui. Avec un site internet, une application sur smartphone, etc.
Oui, parce que c'est pas seulement, je dirais, Idiaspora, c'est pas seulement un expériment dans la recherche, c'était aussi un expériment très intéressant pour la publication et la valorisation de nos résultats. Nous avons sorti un atlas hybride, ça veut dire un atlas augmenté sur papier qui ensuite se connecte à une application sur Apple Store et qui ensuite accède à un autre étage qui est encore plus riche parce que c'est un site avec tous les articles des chercheurs. De là, vous connectez sur une plateforme qui, dans le calcul de chaque diaspora, est toute la base de données open source. Et de là, vous allez encore au dernier étage, le cinquième, encore plus riche, qui est l'archivage, comme je viens de l'évoquer, de tous ces sites qui est fait hebdomadaire grâce à l'aide de l'INA.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'étude de ces diasporas et de leur présence en ligne, Nadine Minescu?
Au début, il fallait inventer une méthode pour approcher le web et pour arriver à organiser une connaissance autour de toutes ces traces nombreuses que les acteurs diasporiques laissent sur la toile. Donc, organiser toutes ces données, les rendre visibles, les rendre dans une forme intelligible, ensuite les valider scientifiquement, c'est tout un processus qui a duré des années.
Est-ce qu'on retrouve des caractéristiques dans toutes les e-diasporas, par exemple? Est-ce qu'on retrouve systématiquement le même type d'applications dans lesquelles s'impliquent en ligne les migrants?
Ça veut dire...
C'est-à-dire, est-ce que sur chaque diaspora qu'on prenne la chinoise, les français de l'étranger, etc., est-ce qu'on va retrouver des caractéristiques systématiquement?
Alors, nous avons qualifié, dans notre travail semi-automatique au début, nous avons qualifié au fond chaque site. Les chercheurs ont exploré site par site et ils les ont qualifiés. Alors, on a essayé de créer des catégories pour chaque 30 diasporas que vous trouvez sur le site idiaspora.fr, des critères communs pour apprendre après, pour arriver après à comparer une diaspora avec l'autre. Alors, bien entendu, il y a des grandes lignes qui se dessinent très vite. En général, on a pu observer que les associations ont un comportement assez individualiste, qui est étonnante. On a pu observer que le web ne suit pas du tout la démographie. En fait, c'est assez étonnant qu'on a, par exemple, de la diaspora kéralaise, il y a 95% dans les pays du Golfe et 5% aux États-Unis. Et pourtant, le web est plus important aux États-Unis. D'ailleurs, une grande hégémonie des États-Unis.
Ça, c'est incroyable quand même. Les équilibres des e-diasporas sont complètement différents des diasporas physiques. Est-ce que c'est une nouvelle, une géographie culturelle inédite?
D'une part, on a pu observer, comme je viens vous dire, cette très forte présence des sites ancrés aux États-Unis, mais on a pu observer aussi, et je pense que mon collègue Emmanuel Mamin va vous parler de ça aussi, une espèce de nationalisation du web. Ça veut dire que si je suis une association, par exemple, de Marocains en France, je pointe surtout une association qui est en France et pas forcément aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, si je suis une association chinoise aux États-Unis, je pointe plutôt. Et tout d'un coup, on voit des clusters nationaux qui se dessinent sur la toile.
Allez, nous allons en Chine, ou plutôt partout dans le monde où des Chinois se sont installés, avec Yuan, un morceau de la chanteuse Miss Melody qui nous parle dans un ancien langage chinois de l'isolement dans les grandes villes. Cet isolement justement que le migrant peut-être connaît moins aujourd'hui avec Internet. Emmanuel Mamink, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de La diaspora chinoise, géographie d'une migration. Et vous avez participé à l'Atlas e-diaspora. Et je crois que vos propres résultats vous ont vous-même beaucoup surpris.
Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de la recherche au sens pur. C'est-à-dire qu'on est, en tous les cas, dans le sens où les résultats n'étaient pas du tout ceux que je prévoyais. Alors, il y en a plusieurs, mais par exemple, le fait que ce qui est apparu, c'est que le web de la diaspora chinoise, compte tenu des critères que nous avons retenus, en fait, est un web essentiellement anglophone et même, plus loin que ça, anglo-saxon. Hein, c'est-à-dire que ce qui ressort de la recherche sur les sites, c'est une espèce de carte qui fait ressortir essentiellement les pays anglo-saxons, la présence des Chinois de la diaspora dans les pays anglo-saxons.
Ce qui n'est pas du tout représentatif de la diaspora physique, qui est majoritairement dans le reste de l'Asie.
Dans l'Asie du Sud-Est, enfin dans l'Asie, quoi. C'est tout à fait ce que disait Dana Minescu tout à l'heure à propos des Kéralais. C'est-à-dire que, les trois quarts de la diaspora chinoise sont localisés en Asie, au sens large.
Sur combien de Chinois d'outre-mer?
On estime entre 40 et 45 millions de personnes. Donc les trois quarts sont en Asie du Sud-Est et le reste le quart restant dans le reste du monde. Et notamment en Amérique latine, en Europe, et puis évidemment en Amérique du Nord. Et l'Amérique du Nord, si vous voulez, représente 10-15% maximum de la... l'Amérique du Nord, excusez-moi, c'est moins de 10% de la diaspora chinoise. Quoi.
Alors que dans les autres langues, il y a très peu de sites, et en plus qui sont très peu connectés.
C'est ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais... il y avait deux principes qui ont été retenus, c'est-à-dire des sites qui sont par les Chinois d'outre-mer et pour les Chinois d'outre-mer. Hein. Et le deuxième principe, c'était d'écarter les sites qui étaient uniquement sinophones. uniquement sinophones, il faudrait dire d'ailleurs sinographes, puisque c'est plutôt l'écriture, parce que s'ils sont uniquement sinophones, ça veut dire qu'ils ne s'adressent pas à l'ensemble de la diaspora, puisque parmi la diaspora, il y a un certain nombre de personnes qui ne lisent pas.
Qui
ne lisent pas le chinois, ils peuvent éventuellement le parler, mais le lire et le lire suffisamment pour lire un site, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas cette...
Est-ce que ça ne fausse pas quand même un peu les résultats en donnant plus d'importance, du coup, forcément à la diaspora anglophone?
Eh bien, écoutez, oui, bien sûr que ça a créé un biais assez important, mais ce qui est aussi assez surprenant, c'est que les recherches qu'on a faites, disons, dans des langues autres que le chinois, hein, par exemple en français, en espagnol, en italien, enfin, en tous les cas, les langues qui utilisent l'alphabet latin, donnaient très peu de résultats, hein, par rapport à l'espace numérique, disons, des Chinois de Romer anglophones. C'est vraiment des résultats très faibles. Alors, il y a vraiment... Ça, c'est un résultat qui était tout à fait surprenant. Enfin, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Au-delà, si vous voulez, des biais inhérents aux contraintes techniques.
Vous avez une explication ou un début d'explication à ce phénomène ?
Ben, je pense que c'est pas spécifique à la diaspora chinoise. Dans ce cas-là, c'est plutôt... je pense qu'il y a une question d'infrastructure, hein, d'infrastructure numérique qui est évidemment plus importante dans les pays, enfin, surtout en Amérique du Nord. Et il y a probablement cette explication-là. Il y a aussi une explication qui est plus interne à la diaspora chinoise, c'est qu'en dehors du chinois, la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Hein. Enfin, la langue de communication, si vous voulez, entre les individus situés dans des pays différents, ça sera l'anglais. Hein.
Quels peuvent être les effets d'un tel déséquilibre sur la circulation des représentations ou de la culture chinoise dans le monde ?
Ce qui est certain, c'est que il y a une influence indirecte des schèmes de pensée. Anglo-saxon, si ça a un sens. C'est-à-dire que, évidemment, dans la façon d'exposer, de décrire, de présenter, c'est plutôt ce type de schèmes mentaux qui va dominer. Alors, ça a donc des effets. Quels effets précisément ? Je serais bien incapable de vous le dire, parce que là, il faut faire appel à à d'autres types de recherches.
Alors peut-être ce qu'il est intéressant de noter pour notre sujet de la semaine sur la diversité culturelle, c'est que les sites culturels justement sont les plus nombreux dans ceux que vous avez trouvés et étudiés. Est-ce que ça nous montre quelque chose, ça ?
C'est ça. Alors une autre chose aussi qui était assez inattendue, c'est qu'en fait dans les sites qu'on a repérés, les anglophones, etc., ce sont souvent des sites qui s'adressent évidemment aux Chinois d'outre-mer, aux Chinois de la diaspora, mais aussi qui s'adressent à un public un peu plus large et qui est, les Asians, hein, les Asiatiques, quoi. Et donc, ce sont donc des sites qui sont tenus par des groupes, des associations ou des individus d'origine chinoise, mais qui visent aussi les autres Asiatiques, c'est-à-dire les Chinois, les Coréens, les Japonais, les Philippins, les Vietnamiens, etc. Donc il y a, vous voyez, une espèce d'aspect comme ça, d'une identité qui est un peu plus, ou une identification qui est un peu plus large que seulement le seul pays d'origine de la personne ou des parents ou des ascendants.
Alors, ce qu'il faut préciser sur votre enquête, Emmanuel Maminck, c'est que c'est une enquête exploratoire, vous le précisez bien dans votre papier.
Voilà, absolument. Oui. C'est tout à fait une enquête exploratoire. C'est pour pouvoir ensuite lancer une recherche plus large qui va essayer d'explorer aussi les sites purement sinophones, ce qui, de toute façon, pose des problèmes techniques, lesquels je ne vais pas rentrer, mais pour les moteurs de recherche, et puis aussi essayer de faire des recherches dans les alphabets non latins, hein, par exemple thaïlandais, etc.
Dana Diminescu, vous avez une réaction ici en plateau ?
J'avais dit que c'est pour l'instant c'est difficile, mais on se donne encore 4 années pour avancer, pour améliorer la méthode, les outils avec lesquels nous avons exploré le web des diasporas.
Merci beaucoup Emmanuel Maminck d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle, vous êtes directeur de recherche au CNRS et auteur de La diaspora chinoise, géographie d'une migration, parue en 2000 chez Ofris. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors, Danat Diminescu, ce qu'on peut trouver extrêmement étonnant, c'est qu'on a l'impression donc, qu'Internet favorise les diasporas d'une expression anglophone, alors qu'on a largement vu en début de semaine la richesse et la diversité linguistique permise par le cyberespace.
Ce n'est pas pour toutes les sites. Il y a beaucoup de sites bilingues. Mmh. Ça veut dire dans la langue d'origine et une langue de navigation. Mais en effet, les diasporas s'adressent au-delà d'un public culturel spécifique. Et donc, ils s'ouvrent aux autres en utilisant une langue de navigation. Et cette langue-là, en effet, c'est plutôt l'anglais pour l'instant. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les diasporas. Pour le Maroc, c'est le français, par exemple.
Alors, justement, est-ce qu'on a des exemples contraires à ce cas chinois où le net permettrait plutôt à une diaspora de revitaliser sa langue et sa culture propre?
Je ne sais pas s'il l'a revitalisé, mais on fait référence à sa culture, mais on le fait dans son parcours migratoire. Comment vous donner un exemple pour que vous me compreniez plus vite? Je pense maintenant à l'instant à une blogueuse marocaine, étudiante au Canada, et qui a fait tout un trajet par l'Europe avant d'arriver au Canada. Alors, sur son blog, elle met un drapeau canadienne. Elle met aussi un poète arabe du 16e siècle. Mm-hmm. Elle met aussi une vidéo d'un imam modéré et également le réseau de tous ses copains de l'école qu'elle a passé en Hollande. Vous voyez, donc, quand elle parle de son identité, elle parle de cette identité multiple et de ses multi-appartenances.
Alors, est-ce que l'étude des diasporas en ligne permet ou pourrait permettre éventuellement d'analyser justement les politiques des États vis-à-vis des migrants qui arrivent chez eux, les politiques d'assimilation ou au contraire de multiculturalisme?
Les politiques d'assimilation et de multiculturalisme, pas vraiment, mais l'Atlas est un outil d'observation politique exceptionnel puisqu'il il montre si les États d'origine de ces migrantes s'ouvrent ou pas, au fond, sont connectés ou pas à leur diaspora. Et on voit très bien, à travers cette radiographie de la connectivité des sites diasporiques sur la toile, qui est lié ou qui, avec qui et qui n'est pas lié. Et aussi qui fait autorité et qui constitue en communauté ou pas. Yeah. Syrian, American is where I wanna be. There I'm on at Aish, Nirvana, peace and heart. ضروري مجبور وفخور بجذوري سوري لك شو خربولي دستوري ومحولي عروبة عصوري دوري دوري يا اسطوانة ايام وشهوري اللي بتمر مرور اللي بقدر يطول هالسورة دماعيلي والسعر دماغيلي ما بعلو حصتو تراث وقصتو فستو حلبي ادب عربي غلبي نهي عن السلب لابتا على ارادتي نبي خالق الارض بفعل الماضي المضارع والامر اشتعل اشتعل وشعل الجمر افكارك النهر نبع من مخي برد وزمزم قنبله طخي طخي راسك انت فايد بيت افندم عائله تشقق. On entend là Syrian American, un morceau d'Omar Ofendoum, un artiste syrien qui vit à Los Angeles. Ses thèmes de prédilection, l'éloignement, le besoin de faire communauté. Dana Diminescu, avec Internet, le migrant s'éloigne complètement de la figure du déraciné. C'est ce que je soutiens depuis quelques bonnes années. J'avais même rédigé un manifeste épistémologique pour pousser cette idée et fonder un programme à la Maison des sciences de l'homme dédié aux migrants connectés. Et c'est pas par hasard que je suis arrivée à cette idée-là, c'est le terrain en fait qui m'a relevé ça.
Qu'est-ce que vous avez observé ?
Ah, d'abord une frontière informatique, après parce qu'on se mouillait, le migrant se mouille à l'environnement digital d'abord par la frontière informatique, par tout l'engrenage du contrôle autour du migrant, mais après par l'appropriation d'une série de nouvelles technologies, on ne devrait même pas les appeler nouvelles technologies, de technologies de communication et d'information. Et d'abord, le téléphone mobile.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le migrant n'est plus un déraciné, alors ?
Et, bon, la thèse, je ne vais pas entrer ici dans tous les détails du déracinement, mais cette figure du migrant déraciné a fait une longue carrière. Et certainement, quand on la décrit comme une figure de la double absence, c'était
oui, c'est
vrai.
Ça, la double absence, la rupture permanente.
C'était quelqu'un qui coupe, n'est-ce pas, les racines dans son pays d'origine et qui n'arrive pas à s'intégrer dans le pays d'accueil. C'était un peu ça, de manière très caricaturale, j'ai réduit là. La vision que le migrant déraciné apporte. Or, aujourd'hui, les nouvelles technologies font que les gens sont joignables partout. Comme toute nouvelle technologie, ça produit de la présence, pas une double présence. Je ne suis pas adhérente à la double présence. Ce n'est pas seulement ici et là-bas. En fait, on est ici déjà et là-bas sous différentes formes de présence. Si je suis présente parce que je peux me connecter sur Skype, mais je suis présente aussi parce que je peux transférer d'argent et j'ai un compte là-bas et je manipule d'ici, si vous voulez, un compte là-bas. Donc, je peux agir là-bas sur différentes formes, avec la famille ou avec une entreprise qui construit ma maison là-bas. Et je suis présente sur la toile aussi. Donc, ce sont différentes formes de présence que les nouvelles technologies donnent naissance. Et c'est important pour le migrant parce que cet attribut des nouvelles technologies d'être présent ici et là-bas, cette proposition des nouvelles technologies, répond à ce besoin du migrant d'approcher le lointain et à cette compulsion de proximité dont il est le sujet.
Ce qui est incroyable, c'est quand vous parlez de ces technologies de paiement en ligne par mobile qui permettent de gérer un compte à distance, etc., c'est que c'est une technologie qui à la fois permet aux migrants d'être plus connectés avec sa famille, sa communauté, son pays d'origine. Et en même temps, ça le libère complètement. Ça le libère d'un poids et d'une pression sociale.
Ah, je ne pense pas du tout. C'est aussi un outil de contrôle à distance de la famille. Je ne peux pas dire que ça le libère. Ça le soulage un peu dans cette souffrance de ne pas être avec les proches. Ça le soulage. Et pour la famille, c'est aussi important qu'ils peuvent accéder à tout moment à son cher qui est parti loin. Donc, il y a une charge émotionnelle autour de ça et aussi une décharge émotionnelle, si je peux dire comme ça. Mais ce n'est pas que des bonnes choses. Je vois de moi de dire qu'il n'y a que des bonnes choses dans le migrant connecté. On m'a posé souvent la question si on n'assiste pas à travers les nouvelles technologies à de nouvelles formes de ghettoisation. Si même une diaspora, là, qu'on vient d'évoquer, n'est pas une autre forme de ghettoisation qui se passe sur la toile. Non, non. Ce que nous avons pu observer, c'est qu'au fond, on donne aux proches le temps quand on le passe, quand on est dans sa proximité. Ça veut dire, je rentre le soir à la maison, c'est là que je me connecte au Skype pour être proche avec les miens. Vous voyez, pendant la journée, je reste dans la société où je suis arrivée, où je travaille et entourée de la société dans le pays où je suis géographiquement.
Est-ce que, du coup, ces technologies ne permettent pas aux migrants connectés d'être finalement dans un parcours un peu plus individualisé ?
Ah oui, oui, oui. En fait, plus on lui design, plus on lui met à la disposition des corridors designés à son usage, en fait, plus il les prend. Et pour le transfert d'argent, on a pu observer, en effet, ça, que nous avons fait une étude, on a suivi sur 4 années les transferts d'argent par téléphone à une banque que je ne vais pas citer ici, et nous avons pu observer que, contrairement à nos attentes, ils avaient la possibilité d'envoyer à 4 destinataires, d'habitude à eux-mêmes, à la famille ou autre. Et alors, leur choix, c'était de s'envoyer dans un pourcentage très impressionnant de l'argent à eux-mêmes. Et ça nous a beaucoup interrogés. Et Et quand nous avons posé la question pourquoi, on a compris que c'était sa forme de présence là-bas. Et c'est pas anodin, ça.
Fiz esse som pra novamente mostrar o tom. Diz da cidade ao catintom. O people sabe que eu sou bom. Batida única de calibra. Não se compara o dólar ao libra. Sinta o cu duro com mais fibra. Não há popozuda que não vibra. Quis ser um pioneiro da opa. Tipo um gangula, ser patriota. Sou um jovem bem comportado. E nunca esqueço a minha tropa. Alameda tem calibre. Tipo o xindungo e o gengibre. Bruno mágico tira pipa. Te sugesta, agora se limpa. Chicuco imitador. Recebi o teu recado de amor. Sem conteúdo e sem valor, guarde bem a resposta de cor. Nunca fui membro da Manchando, pelo contrário, destruço bandos com os meus comandos e não abrando. Tu recuas e eu vou avançando. Deixa essa figura.
Takule Kuya de Bruno M, un DJ angolais qui pratique le kuduro, une scène électro très particulière en Angola, influencée par le Brésil, le Portugal, l'électro mondialisé, les rythmes africains. On retrouve ce morceau d'ailleurs sur l'excellente compilation de kuduro Bazerk. Et nous allons aller donc en rythme à Genève en Suisse, où Genève où 40% des habitants sont de nationalité étrangère. Viola Krebs, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Genève. Vous êtes fondatrice et directrice exécutive de l'ONG IC Volontaire. Vous accompagnez notamment les migrants qui ne parlent pas la langue de leur pays d'installation. Et ce que vous constatez, c'est que le numérique, c'est à la fois un outil formidable pour eux et en même temps potentiellement une barrière supplémentaire pour l'intégration.
Oui, tout à fait. Dans la mesure où il y a... Pour tout outil, bien sûr, il y a du bon et du moins bon. D'un côté, effectivement, c'est l'outil de traduction. On a entendu tout à l'heure Skype, M-Pesa, donc les paiements par téléphone portable ou par aussi Western Union électronisé. Eh bien, c'est une opportunité pour les migrants de garder un lien très fort avec leur communauté d'origine, aussi de trouver un moyen justement de traduction, par exemple, pour comprendre mieux et des outils, des informations pratiques dans leur pays de résidence. Mais d'un autre côté aussi, il y a un danger d'exclusion, notamment pour les migrants qui ne maîtrisent pas bien la langue du pays d'arrivée et puis qui sont peu alphabétisés, par exemple, pour qui l'univers de l'écrit n'est pas un univers très, très bien maîtrisé. Et donc, du coup, il y a effectivement un danger de marginalisation et puis, effectivement, aussi de création de ghettos, éventuellement de populations mal intégrées.
Mais surtout quand, par exemple, les administrations des pays d'accueil se numérisent, là, effectivement, il y a un risque de marginalisation dans ces cas-là.
Oui, absolument. D'autant plus que certaines administrations peuvent exiger qu'on fasse une inscription par Internet. Maintenant, si on ne maîtrise pas bien l'outil technologique d'un côté et puis la langue de l'autre, eh ben, c'est un obstacle certainement pas du tout négligeable.
Viola Krebs, vous, quels sont les besoins linguistiques ou culturels des migrants en ligne sur lesquels vous pouvez intervenir? Comment vous pouvez concrètement les aider?
Eh bien, nous, concrètement, avec le programme Migralingua qu'on gère ici à Genève, et puis on a aussi un certain nombre d'activités ailleurs dans le monde par rapport à ce programme, eh bien, on accompagne les migrants de manière très pragmatique dans leur démarche quotidienne. Donc, il y a un réseau d'interprètes communautaires qui peuvent accompagner ces migrants lorsqu'ils doivent s'inscrire. Justement, on peut les aider, par exemple, s'il y a une inscription en ligne et puis ils ne savent pas très bien comment faire. Donc, il y a des modules de formation pour ces migrants-là. Et puis, ensuite, avec des traductions écrites, parce qu'il peut y avoir effectivement l'exigence de présenter un document, par exemple, dans la langue nationale ici. Bon, ici en Suisse, nous avons 4 langues nationales, dont le français. Mais, par exemple, l'anglais ne serait pas considéré comme langue nationale. Du coup, même si quelqu'un vient avec un document en anglais, il faut quand même qu'il soit transposé dans la langue du pays. c'est-à-dire le français, l'allemand, l'italien ou le romanche.
Vous travaillez par exemple avec Chindouk Mohamed Lamine, qui est un réfugié malien installé au Canada. Bon, c'est un cas parmi tant d'autres, mais son expérience est assez significative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est son parcours et son rapport à Internet et aux nouvelles technologies ?
Bon, alors c'est une longue histoire, dans le sens où elle a commencé il y a passé 10 ans. Moi, à l'époque, en tant qu'organisation assez impliquée dans la préparation du sommet mondial sur la société de l'information. Et puis, bon, effectivement, on parlait beaucoup du fossé numérique, de l'exclusion de certaines parties du monde, du fait qu'à l'époque, à peu près 19% de la population mondiale était connectée et puis les 91% restant pas. Et donc, on travaillait déjà aussi en Afrique. Et puis, alors j'ai fait un voyage à Tombouctou et j'ai rencontré dans le cybercafé qui avait été mis en place par l'UNESCO à l'époque, j'ai rencontré un monsieur Touareg. Qui m'a posé la question d'où je venais, ce que je faisais là. Enfin bref, on a commencé à parler. Et puis, il s'est tissé en fait une amitié et puis aussi, par la suite, une collaboration dans la mesure où il est devenu notre représentant à Tombouctou pour les projets qu'on a en lien avec l'Afrique. Et aussi qui sont pas mal liés justement à la diversité linguistique et numérique. Mais là, c'est des langues aussi, on va dire, africaines, locales, que ce soit le tamashek, le bambara, le songhai pour le Mali, par exemple. Et donc, malheureusement, donc à l'époque, en 2003, on a tourné un documentaire qu'on a appelé « Tout à partir de rien », où Chinook racontait, enfin, il y avait différents intervenants, on voulait comprendre comment, en fait, Internet pouvait servir les populations ou pas. Chindouk, donc, il est chef d'une tribu de 6000 personnes dans le nord du Mali. Et puis, il disait à l'époque, nous, alors, on a besoin d'eau pour nos animaux, on a besoin de pouvoir manger, on a besoin, enfin, on a des besoins primaires, on n'est pas prêts, les technologies, c'est vraiment la pointe du savoir.
On n'a pas besoin d'Internet.
On va y arriver petit à petit. Et bon, par la suite, il a malheureusement l'histoire a montré que bon, il y a eu une guerre donc au Mali en 2012 avec le coup d'État Chindouk a dû quitter sa communauté. Il a dû quitter, enfin, sa communauté a quitté en fait Tombouctou et lui, il s'est retrouvé réfugié au Canada. Et là, on s'est retrouvé à nouveau en ligne cette fois-ci. Parce qu'avant, on communiquait plutôt par téléphone une fois qu'il y avait le réseau. Et sinon, par mail, justement, avec le fameux cybercafé. Il fallait beaucoup de patience parce que c'était vraiment très, très long. Et donc, on se retrouve régulièrement à discuter, maintenant qu'il est au Canada, par Skype. Et là, il a un casque. Et moi, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, mais tu vois, Chindouk, à quel point les choses évoluent. Puis il me dit, mais Viola, effectivement, tu as raison. Les technologies, c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui dans ma vie. Parce que c'est ce qui me permet de rester en contact avec ma communauté qui est éparpillée entre l'Algérie, le Burkina, la Mauritanie. Et heureusement, il y a ces technologies parce que je suis très loin, je suis dans le nord du Canada, je suis assez isolée par rapport à effectivement mes origines et ça me donne une lueur d'espoir.
Ça lui permet aussi de franchir la barrière de la langue parce qu'il parle plein de langues, mais pas forcément l'anglais.
Absolument, parce qu'il s'est retrouvé donc. Par mariage avec dans une région plutôt anglophone et il est multilingue, polyglotte, mais l'anglais c'est difficile pour lui donc parce qu'il n'a pas appris cette langue encore. Oui. Il l'apprend petit à petit et donc effectivement aussi les outils de traduction et autres ça l'aide beaucoup.
Merci beaucoup, Viola Krebs, d'avoir été avec nous en direct de Genève. Je rappelle, fondatrice et directrice exécutive de l'ONG IC Volontaire. Merci beaucoup. Dana Diminescu, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Bah, c'est tout à fait le sujet. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'étais à Bamako et j'ai pu constater que toutes les 30 mètres, il y avait un guichet où on pouvait acheter des cartes d'un opérateur. J'étais pour lancer justement un site et faire un atelier autour du migrant connecté. Avec Orange qui ont lancé un site Digital Society Forum autour du migrant connecté. Et on a interagi avec les gens qui avaient déjà un passé migrant et qui, au fond, se reconnaissaient dans ce qu'on vient d'évoquer là tout à l'heure. Mais ce que je voudrais tout de suite remarquer, c'est la chose suivante. On est aujourd'hui, grâce aux technologies, à passer d'une forme de communication à une autre. Avant, déjà, on communiquait, le lien était toujours là avec les familles, on envoyait des lettres, on envoyait ensuite des cassettes, on appelait par téléphone. Mais le téléphone mobile et l'Internet apportent quelque chose encore plus important, c'est qu'on peut, en fait, vivre ensemble à distance. Donc, on est plus, on communique plus pour se dire bonjour, on est bien, on a besoin de quelque chose et claque. On passe du temps ensemble et ça, c'est vraiment différent. Et on passe ce temps ensemble, pas arbitrairement, mais presque quotidiennement. Et ça, c'est aussi un autre changement.
Puisqu'on a parlé du Mali, en tant qu'outil, Internet, c'est aussi un outil pour les luttes, pour les diasporas. On parlait au tout début de cette émission de veilleurs, de sentinelles. Alors, les diasporas connectées sont les nouveaux observateurs internationaux ?
Ah oui, ils se mobilisent et on a plein d'exemples autour de mobilisation, soit qu'il y a une cause politique historique, soit qu'il s'agit de sauver une de leurs membres qui se fait, je ne sais pas, arrêter dans un pays. Et donc, il y a une réactivité, une mobilisation extrêmement efficace à travers pas seulement le web, la blogosphère, mais surtout le Twitter, le Facebook et toutes les réseaux en général. Il faut dire aussi qu'il y a parfois une prise de pouvoir de certains groupes qui devient très fort et très visible dans le web en détriment de d'autres membres de la diaspora qui sont peut-être moins actifs.
Au détriment peut-être aussi de l'état d'origine qui aimerait bien un peu plus contrôler, catalyser cette diaspora. Si on regarde vos graphes, si on regarde le graphe par exemple sur le Maroc ou sur le Mexique, on voit bien que les sites institutionnels, ils n'arrivent pas à contrôler cette diaspora.
Oui, c'est très intéressant. Le Mexique et le Maroc sont des exemples très, très, très intéressants parce que ce sont des pays qui ont une grande diaspora déployée dans le monde et qui ont une politique d'ouvrir des corridors déjà pour que les expatriés envoient leurs ressources ou se connectent à leur pays. Or quand on regarde qu'est-ce que se passe sur la toile, on voit que leurs institutions, en l'occurrence les ministères délégués de s'occuper des expatriés mexicains ou marocains, n'arrivent pas en fait à se connecter avec leur diaspora. C'est un site assez intéressant pour le cas de Marocains, Yabiladi, qui connecte le cluster des associations avec le cluster de la blogosphère qui est très dense et très connecté, celui des associations, comme je viens de vous dire au début de l'émission, très raréfié le lien entre eux, et puis celui des médias et des autres institutions. Et qu'est-ce que fait ce site Yabiladi? C'est très intéressant. Et c'est un site où beaucoup de gens interagissent. Surtout et n'importe quoi, c'est sur toutes les petites choses de la vie quotidienne. Et c'est lui qui fait le pont entre tout ce monde-là que je viens d'évoquer là.
Love you, darling, one night.
Allez, on fait un petit saut au Népal dans cette diaspora internet et le lieu justement de lutte de pouvoir pour la visibilité en ligne. Nous rejoignons Tristan Brûlé. Tristan Brûlé, vous êtes chercheur au centre d'études himalayennes du CNRS. Vous êtes actuellement dans la région de la plaine indo-gangétique au Népal et vous avez travaillé sur le projet e-diaspora. Et ce qu'il faut peut-être tout de suite souligner, c'est que la diaspora népalaise s'est structurée très récemment.
Oui, exactement. Ouais. En fait, c'est une diaspora qui est à la fois très récente parce que sa structuration est récente, mais elle est aussi ancienne étant donné qu'il y a des flux de population depuis le Népal qui existent depuis environ le milieu du 19e siècle et qui sont accentués tout au long du 19e siècle, en particulier vers l'Inde. Mais dans cette structuration de la diaspora telle qu'elle est menée à l'heure actuelle par la grosse association donc des non-residents népalaises, les Indiens d'origine népalaise ne sont pas inclus. Donc on a une diaspora qui est finalement plutôt organisée par des migrants récents qui sont partis de leur pays depuis une dizaine ou une quinzaine d'années.
Comme dans le cas de la diaspora chinoise dont nous parle Emmanuel Maming, la e-diaspora népalaise est totalement dominée par les anglophones, c'est ce que vous avez observé, plus globalement par les Népalais d'Occident.
Exactement, oui. Donc en fait, ce qui est intéressant quand on étudie ces e-diasporas, c'est voir qu'en fait, il n'y a pas du tout de recoupement entre une carte, par exemple, des migrations ou des migrants népalais à l'extérieur du Népal et une carte des sites web diasporiques de cette même diaspora. On remarque qu'on a vraiment une domination très très forte. Environ 75% des sites sont des sites qui sont animés par des Népalais qui habitent soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Australie, alors que de l'autre côté, on a sans doute, alors les chiffres sont très incertains, mais au moins 80 ou 90% de cette même population d'expatriés népalais qui vit de manière temporaire dans le Golfe et en Malaisie. Donc on a vraiment une disjonction très très forte entre la population majoritaire et celle qui maintient les sites web et notamment les maintient en anglais.
Alors cette diaspora népalaise, on l'a dit, elle est en construction, en structuration. Et ce qui est intéressant de voir dans vos résultats, Tristan Brûlé, c'est qu'on a l'impression que le cyberespace peut du coup servir de socle à cette construction identitaire et culturelle.
D'une certaine manière, oui, tout en ayant de très fortes limites que je viens de rappeler à l'instant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on assiste à la formation de cette diaspora notamment par l'intermédiaire du web. Internet est vraiment un support pour ancrer, on pourrait dire, des communautés dans un espace un peu virtuel. Mais finalement, cet espace virtuel, il est lié à des espaces bien localisés de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie.
Oui, en fait, le problème, c'est que c'est une diaspora qui se construit de façon complètement inégalitaire. Dans la structuration, il y a des rapports de pouvoir, vous l'avez dit, une domination des anglophones. Et on a même l'impression qu'il y a une tentative de confisquer l'identité et la culture de la diaspora.
En fait, il y a de toute façon un peu une tentative de s'approprier par les gens qui sont en train de promouvoir la diaspora, donc ce mouvement des non-resident népalais. Il y a une tentative de s'approprier le mot pour en faire un peu un instrument de domination. C'est-à-dire que maintenant, le terme diaspora, il est un peu brandi en étendard par ceux qui veulent investir au Népal, avoir la double nationalité, etc., mais qui finalement représente qu'une toute petite part de l'ensemble des migrants népalais installés à l'extérieur. Et quand je fais mes enquêtes, que ce soit au Qatar, parmi les migrants népalais ou ici au Népal, parmi ceux qui sont revenus, le terme de diaspora leur est complètement inconnu. Et le nom même de l'association, donc Non-Resident Népalais, leur est aussi inconnu. Donc on voit que le terme, il est approprié, il est brandi en étendard par certains. Alors, est-ce que c'est vraiment à leur propre profit? Moi, j'aurais tendance à le penser. Peut-être qu'il faudrait faire des études plus approfondies. Mais en tout cas, cette dimension inégalitaire dans l'accès même, en fait, on pourrait dire au terme, est très très forte, en effet.
Ce qu'on peut se demander, c'est si cette diaspora népalaise visible, bien que non représentative, visible en ligne, a une place importante dans l'espace public népalais. Est-ce qu'elle pèse sur ce qui se passe au Népal ou sur ce qui se dit sur le Népal dans le monde?
Je pense que d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, en effet, les associations qui représentent les différents Népalais dans les villes où ils sont implantés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Occident de manière générale, je pense qu'ils participent à la construction d'un Népal et ils participent vis-à-vis des Occidentaux. On a donc la construction d'un Népal pauvre, qu'il faut aider, qui est en développement, etc. Et cet Internet sert sans doute à structurer des réseaux entre eux. Et une des hypothèses du réseau, du projet, e-diaspora, c'est qu'en fait, ces liens entre les différents sites sont le reflet, sont l'image de liens existants entre différentes personnes au sein de cette diaspora.
Merci beaucoup Tristan Brûlé, chercheur au Centre d'études himalayennes du CNRS. Dana Diminescu, il nous reste 30 petites secondes, une minute. J'aimerais bien savoir quelle va être la suite de ce programme e-Atlas, Atlas des e-Diaspora. Quels sont les terrains que vous allez défricher, approfondir?
D'abord, on va certainement élargir à d'autres diasporas. Mais on va s'intéresser surtout, comme nous avons créé une archive, comment en fait le corpus que nous avons constitué évolue dans le temps. Et comment en fait les sites elles-mêmes, donc les réseaux que constituent ces corpus, évoluent dans le temps en fonction d'un changement comme une guerre ou de l'arrivée du Facebook et toutes les incidences de ces ruptures systémiques. Quelles sont les incidences sur l'organisation des diasporas sur la toile?
In the darkest hour, when the world has turned away and no one's watching, when the sky has turned gray and you have no options, when your voice is illegal, only choice for the people is to stand up proudly in the face of death. It ain't a waste of breath when you speak up loudly on behalf of the...
On se quitte avec Can't Take Our Freedom, Vous ne pouvez pas prendre notre liberté, de Khaled M, un rappeur libyen américain. Merci beaucoup à tous nos invités, à commencer par Dana Diminescu, donc sociologue, enseignante à Télécom Paris Tech et conceptrice du projet de l'Atlas e-Diaspora. Merci à Viola Krebs, Emmanuel Mamingue et Tristan Brûlé d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de Culture Monde, Tiffaine de Rocchini, Salomé Vio, Antoine Dulster, Clément Salzar, à la réalisation Doria Zénine, à la technique Clément Berman.